la musique a le pouvoir, la puissance et la capacité d'inspirer, de motiver et d'élever les êtres humains. La musique a le pouvoir, la puissance et la capacité d'enseigner et de renforcer les messages positifs dans nos esprits. Et aussi, la musique peut être aussi utilisée pour injecter des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes et des mauvais messages dans nos esprits. La musique et plus précisément les chansons d'une société vous informent de leur valeur de cette société. Une personne sage a dit, et je paraphrase, « Montrez-moi les cantiques d'un groupe religieux, je peux vous dire leur théologie. » Nos cantiques reflèteront et renforceront ce que nous croyons si nous les chanterons. Chanter est très important pour notre adoration de Dieu. Le titre de mon présentation aujourd'hui, c'est « Entrer la présence de Dieu en chantant ». Entrer la présence de Dieu en chantant. Aujourd'hui, nous allons examiner deux points principaux. Première, pourquoi avons-nous des cantiques et engageons-nous toute la congrégation à chanter ensemble au commencement des services réguliers du sabbat? Pourquoi est-ce que nous engageons toute la congrégation à chanter ensemble au commencement des services réguliers du sabbat? Le deuxième point, quels sont les avantages quand la congrégation chante ensemble? Laisse-moi vous donner un peu de contexte avant. Qu'est-ce que c'est la musique? On peut dire, mais tiens, tout le monde connaît ce que c'est la musique. D'après le dictionnaire français Larousse, la musique est un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Production de cet art, œuvre musicale, science des sons considérés sous le rapport de la mélodie et du rythme. Notation écrite d'airs musicaux. Le Robert a fait une définition, premièrement, art de combiner des sons d'après les règles qui sont variables selon les lieux et les époques, d'organiser d'une durée avec des éléments sonores. Production de cet art, son est ouvert. Et alors le Robert continue, suite, ensemble des sons rappelant la musique, bruit, harmonie, mélodie. Le son est une vibration, une onde se déplaçant à travers une substance environnante, comme les vibrations se déplaçant dans l'air. Les définitions générales de la musique inclut des éléments communs tels que la hauteur qui régit la mélodie et l'harmonie, le rythme et ses concepts associés de tempo, de mètre et d'articulation, et la dynamique, volume et douceur. Laisse-moi vous poser une question. Est-ce qu'il y a de musique dans la structure de notre univers? De nombreux physiciens, théoriciens, s'accorde à dire que l'une des meilleures explications de la structure et du fonctionnement de notre univers s'appelle la théorie des cordes. C'est là que des cordes vibrantes, incroyablement minuscules, s'unissent pour produire des particules atomiques de base, telles que les protons, les électrons, à certains niveaux d'énergie appelés harmoniques, encore un autre terme musical. Ces particules produisent à leur tour l'univers physique que nous voyons. Ces cordes produisent également des mécanismes et transmissions de l'énergie. Se pourrait-il que ces vibrations, ou peut-être pourrions-nous dire que cette musique, est l'un des principes fondamentaux de notre univers? Un autre contexte, la musique au trône de Dieu. Tenez avec moi en Apocalypse, chapitre 4. Et Apocalypse 4, nous voyons la scène du trône de Dieu, le Père et ce qui se passe au trône de Dieu actuellement. Et nous voyons que le Père, verset 2 à 4, le Père est sur son trône. Et ça donne une description du Père. Et puis, verset 4, autour du trône, je vis 24 vieillards sur des trônes. Ils sont très proches au trône de Dieu, 24 vieillards. Et aussi verset 6, au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Et puis, ça dans la description des êtres vivants. Nous voyons verset 8, ils ont chacun six ailes. Nous les appelons séraphins. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Allons avec moi à l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ici, la scène continue et le Père, il a un rouleau, il a un livre dans la main. Il voudrait donner ça à l'être qui est devenu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et verset 6, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient et prit le livre de la main droite du Père qui était assise sur le trône. Verset 8, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient une cantique nouveau. Les êtres qui sont le plus proches à notre Père, au trône de Dieu, ils chantaient une cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu. » Par ton sang, des hommes et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, tu as fait de eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. Donc, il parle du royaume de Dieu. Mais il parle du royaume de Dieu en chantant. Donc, il chante le royaume de Dieu. Et nous voyons qu'on continue. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants, des vieillards, le nombre était des myriades et des myriades, c'est-à-dire 100 millions, et milliers et des milliers, c'est-à-dire des millions. Tant des personnages autour du trône de Dieu. L'agneau qui était immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La louange par les chantants, les cantiques, les chansons. Continue. En Hébreux, chapitre 8, nous avons vu en Apocalypse une vision du trône de Dieu et une scène qui a passé au trône de Dieu. Nous avons vu que les êtres les plus proches au Père, ils chantent les louanges à Dieu le Père, à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. En Hébreux, chapitre 8, c'est pas ici le Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, et il parle de le souverain sacrificateur. Et pour vous donner le contexte, je vais commencer verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ça parle de Jésus-Christ. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il parle de le sacerdoce lévitique qui était là à ce moment-là. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Et c'est le point que je voudrais noter. Le sacerdoce lévitique, le tabernacle, le temple était une ombre et image des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soit lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle que tu as été montré sur la montagne. Nous comprenons que le sacerdoce, le lévitique, le temple, le tabernacle, toutes les choses, Ils étaient une ombre, une imitation des choses au trône de Dieu dans le ciel. Le roi David, il a fait beaucoup pour organiser le sacerdoce et le temple et le tabernacle et tout ça. Est-ce qu'il nommait des chanteurs pour le temple à Jérusalem? Retenez avec moi à Première Chronique. Vous pouvez noter en chapitre 15. Et je vais simplement faire un sommaire, parce qu'en 1 Chronique 15, c'était l'histoire de l'arche de l'Alliance qui était transportée à Jérusalem. Cette arche était à Kiriath Yarim pendant des années. Et après que David a fait la conquête de Jérusalem, il a voulu transporter l'arche à Jérusalem. Et puis, quand ils ont transporté l'arche, ils avaient des chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, c'est ça, vous pouvez voir ça en verset 16, des cymbales qui devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Et il y avait des chants, il y avait des musiques, beaucoup de musique, quand ils transportaient cela vers Jérusalem. Et verset 25, David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison de Obed-Edom au milieu de réjouissance. Et puis verset 27, David était revêtu de manteaux de bissu. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et des Cananiens, chefs de musique parmi les chantres. Donc il y avait beaucoup de musique, beaucoup de chansons, des cantiques. Et c'était pour transporter l'arche vers Jérusalem. Maintenant, 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16. Donc, ils ont amené l'arche. Et verset 4, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était célébrer et louer Dieu simplement en disant des mots. Ou est-ce que par des chants, par la musique. Bon, je crois bien, c'était par la musique. Et puis, ça donne verset 5, Esaf, qui était un chef musicien, et des autres personnes, ils ont fait des musiques. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Esaf fait retentir des cymbales. Des sacrificateurs, Benaïa et Yahaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. C'est pour ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères à célébrer les louanges de l'Éternel, par la musique, bien sûr. Et puis, il a donné un cantique, une chanson. Ça commence verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, fait connaître parmi le peuple ses autres faits, chantez à son honneur, parlez de ses merveilles. Donc, vous pouvez continuer. Mais nous voyons que David, il a nommé des chanteurs et des joueurs des instruments pour servir devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Et cela, dans l'Ancien Testament, c'est une imitation et une ombre du trône de Dieu dans le ciel. En 1 Chronique, chapitre 25, nous voyons qu'il y avait des personnes qui étaient choisies pour jouer des instruments et de chanter la louange à Dieu. Et David les a divisés en ordre d'au moins 12 personnes dans chaque cœur. Il y avait des cœurs. Apparemment, il n'y avait pas de limite supérieure, mais au moins, il devait y avoir 12 personnes pour chanter les louanges à l'Éternel. Il y avait des divisions que David a mis en place. Et maintenant, allons avec moi à 2 Chroniques, chapitre 5. Donc, l'arche était transportée dans le sanctuaire et nous voyons en 2 Chroniques, chapitre 5, je commence verset 7. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sur les ailes du carobin. Et puis verset 10. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça à Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent de le lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jérutan, leur fils et leur frère, revêtus de bissu, se tenaient à l'orient de l'autel avec les cymbales, des luttes, des arbres. Ils avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'une même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célèbrent l'Éternel pour ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce moment, quand les musiciens, les chantres, ils ont unissé ensemble, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de Dieu remplissait la maison de Dieu quand les musiciens, les chantres s'unissant ensemble. La musique aide à l'unité. Dieu est content avec les chants et la musique, et il agit quand il entend la musique. Laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que Jésus, est-ce qu'il va chanter à son épouse, l'Église? Tournez avec moi à Sophonie, le prophète Sophonie. Sophonie, chapitre 3. Et je dois vous dire que ici, ce passage, c'est un exemple où nous devons utiliser d'autres traductions pour vraiment capturer le sens, pour vraiment entendre, comprendre le sens. Sophonie, chapitre 3, et c'est, ce passage, c'est en verset 14 à 17. Eh bien, j'ai la version Louis II ici, mais on va citer encore plusieurs autres traductions. Mais je commence avec ce bon. Sophonie 3, verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Et je dis simplement en passant que quand on parle dans la Bible fille de quelque chose, normalement, cela veut dire à la suite des temps, à la fin de l'ère, à la fin des âges. Par exemple, fille de Babylone, c'est le système babylonien à la fin de cet âge, juste avant le retour de Christ. Fille de Sion peut être compris par l'Église de Dieu au temps de la fin. Fille de Jérusalem, c'est Jérusalem au temps de la fin. C'est une compréhension que nous pouvons avoir. Alors, pousse des cris de joie, fille de Sion. Et je comprends cela pour vous dire, c'est l'Église de Dieu au temps de la fin. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi de triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, qui est le roi d'Israël, c'est Jésus-Christ, a détourné, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne se faiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. C'est vraiment une mauvaise traduction. Je veux dire, c'est vraiment mauvaise. Il aura pour toi des transports d'allégresse. OK. On ne voit pas la musique et les chansons, les cantiques dans ce passage, dans cette traduction. Mais laisse-moi ajouter d'autres traductions. Par exemple, la Bible Martin. La Bible Martin. Et à verset 14. Et vous pouvez voir dans la seconde, et j'ai dit la Bible Martin, le même verset. Réjouis-toi avec chant de triomphe. Réjouis-toi avec chant de triomphe, fille de Sion. Jette des cris de réjouissance au Israël. Réjouis-toi et t'égaye de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Ici, c'est mention de chant. La Bible Darby, même verset. Exulte, fille de Sion. Pousse des cris d'Israël. Réjouis-toi et gaie-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. la Bible de Roi Jacques en anglais. Je traduis de anglais en français, même verset. Chante aux filles de Sion, criez aux Israël, sois heureux et réjouissez vous de tout le cœur aux filles de Jérusalem. Donc avec les autres traductions, on comprend que quand il dit « pousse des cris de joie », cela veut être compris par « chanter », avec des louanges, « chanter à l'Éternel ». Alors maintenant, en verset 17, vous pouvez, nous avons déjà vu la version seconde, mais en la Bible Martin, cette même verset 17 veut dire « l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le puissant te délivrera, il se réjouira à cause de toi d'une grande joie, il se taira à cause de son amour, il s'égayera à cause de toi avec chant de triomphe. » Il s'égayera avec chant de triomphe. La Bible d'Abi, l'Éternel ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec toi à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Et aussi la Bible, le roi Jacques, anglais que je traduis en français, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi et puissant. Il sauvera, il se réjouira de toi avec joie, il se reposera dans son amour, il se réjouira de toi en chantant. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que c'est un prophétie que Jésus-Christ lui-même va chanter de joie avec l'Église. Au temps de la fin, il va chanter. Et pour moi, c'est une commande. Il chante à l'Église. Il chante à l'Église. Et l'Église aussi devait chanter, pousser des cris de joie, de chanter à l'Éternel, parce que Dieu est parmi nous au temps de la fin. À la fin des temps, il nous sauvera, il nous calmera. Je crois que c'est une meilleure compréhension au lieu de « il se taira », mais il nous calmera avec son amour et se réjouira de nous en chantant. Et je vous pose une question importante, vous hommes qui sont mariés. Vous hommes, est-ce que vous devriez chanter à vos femmes? Et beaucoup de hommes disent, oh non, 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 non. Mais notre Sauveur Jésus-Christ, il va chanter à sa femme. C'est vraiment important et intéressant. Alors maintenant, tournez avec moi en Apocalypse 14. Est-ce que l'Église va chanter quand nous sommes changés en esprit? Est-ce que l'Église de Dieu, la femme de Jésus-Christ, est-ce qu'elle va chanter à Jésus-Christ? Et ce passage, Apocalypse 14, ça parle des 144 000. Et je comprends qu'au moins les 144 000 ici font partie, au moins, de la femme de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 1er. Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, au moins, ils font partie de la femme de Christ, l'Église de Dieu. Verset 2. J'entendis du ciel une voix comme un bruit des gros sauts, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs des harpes, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ceux qui sont les plus proches à Dieu chantent leur louange. Tournez avec moi à Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Et c'est un passage que nous lisons beaucoup de fois, mais je lis en partie dans ce contexte. Matthieu 6 et verset 9. Matthieu 6 et verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous prions presque chaque jour que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est d'entendre des cantiques et des chansons autour de son trône dans les cieux? Oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'entendre les cantiques et les chansons de son peuple sur la terre? Oui aussi. Alors maintenant, premier point. Pourquoi commençons-nous les services par les cantiques que nous chantons ensemble? Pourquoi pas la prière? Ou dites simplement, s'il vous plaît, asseyez-vous et le prédicateur va commencer à lire la Bible. Pourquoi est-ce que nous commençons avec les cantiques? Tournez avec moi à Psaume 100. Nous comprenons tous que le livre des psaumes, c'est le plus long, le plus grand de la Bible. Psaume 100. Je vais lire tous dans la version seconde. Ouais. Non, je vais aussi utiliser d'autres traductions aussi. Mais je commence dans la version seconde. Psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse, et on peut dire venez avec des chansons, en chantant, en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, j'ai lu ça en version seconde. Mais si nous utilisons la Bible Martin, servez l'Éternel avec allégresse, venez devant lui avec chant de joie. Venez devant lui avec chant de joie. La Bible d'Harvey. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. La Bible de Roi Jacques. En français. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant sa présence en chantant. Et c'est intéressant, il y a un mot. Venez devant sa présence en chantant. Verset 4. Et des louanges. C'est un mot hébreu, tefila. Et c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais tefila, en hébreu, c'est un chant de prière de louange. C'est vraiment un chant avec une attitude de prier et de louer Dieu. Tefila. Vous pouvez faire la recherche sur cela, si vous voulez. Alors, je vois ici que Dieu nous commande d'entrer en sa présence avec les chants. Psaume 95. Pardonnez-moi si j'utilise 90. Psaume 95. Verset 1er. Venez, chantant avec allégresse à l'Éternel. Tous sont des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Voyez-vous, entrez dans la présence de Dieu en chantant. Il y a plusieurs commandes pour chanter des chansons à Dieu, y compris l'utilisation des instruments. Par exemple, Psaume 92, verset 1er. Psaume, cantique pour le jour de sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au trésor, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument au discorde et sur la luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Retenez aussi à Psaume 33, Psaume 33, verset 1er. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur la luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Psaume 104. Psaume 104. Verset 33. Psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je crois bien, c'est la volonté de Dieu de chanter à l'Éternel. Et psaume 66. Psaume 66. Vous pouvez faire une étude de tout cela. Je crois que c'est intéressant ce que nous voyons dans les psaumes. Psaume 66. Psaume 66, je commence verset 1er. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Pause. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons toute la terre chante les louanges de Dieu. La musique est partout. Les oiseaux, les animaux, ils ont la chanson. Ils chantent la gloire de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu doit aussi chanter? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour son peuple de chanter quand il vient devant sa présence le jour du sabbat? Nous sommes commandés à entrer et se réunir le jour du sabbat. Est-ce que nous devons aussi chanter, entrer dans la présence de Dieu en chantant? Je crois bien sûr. Dernièrement, parce que nous avons eu un temps de problèmes avec le COVID, c'était une grande disruption pour beaucoup de personnes. Et certaines personnes dans certains groupes de l'Église de Dieu, certaines veulent dire que toutes ces écritures et bien d'autres encore ne soient que des exhortations et pas des vrais commandements. Je vous encourage à faire une étude rapide du nombre de versets qui nous appellent à chanter des louanges à Dieu et approchez-le en chantant. Et vous jugez si la volonté de Dieu est claire sur ce point. Comme j'ai déjà dit, le plus grand, le plus long livre de la Bible est lequel? Le livre des psaumes, et ils sont écrits pour les chanter. Aussi, certaines personnes ils veulent faire valoir que ce n'est pas un péché de ne pas chanter au service. Je suppose, à un certain niveau, cela pourrait être vrai. Si vous êtes né sans langue, vous ne pouvez pas chanter. Donc, vous ne pécherez pas si vous ne chanterez pas au service. Et si vous avez des allergies, j'ai des allergies de temps en autre, que vous ne pouvez pas même pas croiser et encore moins chanter, alors vous ne péchez pas si vous ne chantez pas au service. Nous comprenons tous la force majeure des situations indépendantes de notre volonté humaine. Le point clé, est-ce que nous sommes physiquement capables de chanter? Si la réponse est oui, alors je crois que nous devons tous chanter. Tournez avec moi à Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Et verset 17, c'est une des définitions de le péché. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Si nous sommes capables de chanter et nous ne chantons pas, est-ce que c'est un péché d'omission? Et mes frères et mes sœurs, ne soyez pas embarrassés si nous ne chantons pas bien. Dieu connaît nos talents et notre capacité pour chanter. Il regarde notre cœur. Faites notre part. Chantez le meilleur possible. C'est Dieu qui entend. Deuxième grand point. Quels sont les avantages du chant de congrégation? J'ai plusieurs sous-points. Premier sous-point. Le chant de congrégation favorise et encourage l'unité entre le peuple de Dieu. Nous avons déjà vu dans le passé quand les chantres et les musiciens s'unissant ensemble, Dieu est entré, la présence de Dieu est entrée dans le temple. Lorsque nous ouvrons les services avec des chants, le groupe commence à respirer à l'unisson. Les chœurs du groupe commencent à se synchroniser avec le rythme de la musique. Et nos pensées commencent à se concentrer sur les mêmes mots, les mêmes idées. Nous commençons à sortir du monde et entrer dans la présence de Dieu. Alors, est-ce que nous aurions pu penser à la circulation sur le chemin, le service où nous placer dans nos chaises? Quand nous commençons à chanter, nous commençons à mettre tout cela derrière. Nous devenons de plus en plus unis et prêts à ce qu'une seule personne prie Dieu au nom de la congrégation. Et nous disons tous Amen. Même les militaires, ils savent que marcher et chanter ensemble renforce l'unité. Le camp d'entraînement pour les personnes nouvelles entrées dans le service, ils font cela. Deuxième sous-point, la musique engage tout notre esprit. Mes frères, certaines zones de cerveau se concentrent sur une fonction particulière. Par exemple, si j'essaie d'équilibrer sur un seul jambe, le cervelette, il y a une certaine partie du cerveau. Le cervelette nous aide à contrôler notre équilibre. Mais quand il s'agit de musique, il n'y a pas un centre musical unique dans notre cerveau. La musique fait activer presque toutes les régions du cerveau qui ont été cartographiées jusqu'à présent. Comme le dit Science Daily, participer à la musique illumine tout le cerveau. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui. Chanter ensemble engage toute notre pensée, notre esprit, nos cœurs, notre respiration, tous. Ça engage tout notre esprit. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. L'Église primitive a été exhortée par l'apôtre Paul à chanter dans son adoration de Dieu le jour de sabbat. Il devait chanter à haute voix et prononcer les mots pour que les gens puissent comprendre. Il ne pouvait pas simplement rester silent et faire de la mélodie silencieusement dans le cœur. Le sens est que nous devons chanter de tout notre cœur avec enthousiasme, dire les paroles, prononcer les paroles avec la musique. Paul nous dit ici de chanter les uns les autres à Dieu de tout notre cœur. Lorsque nous chantons de tout notre cœur, tout notre esprit est activé, nos pensées sont dirigées vers Dieu, tout notre esprit est engagé dans cette adoration. Alors que seulement une ou deux prient pour le groupe, et seulement une ou deux enseignent normalement le groupe, c'est le rôle direct de chaque personne dans les services d'adoration de chanter la louange à Dieu. Troisième sous-point. La musique nous aide à apprendre. La musique nous aide à apprendre. Dans les années 1990, les chercheurs ont mis au jour une théorie appelée l'effet Mozart. L'effet Mozart. L'effet Mozart proposait que l'écoute de musique classique augmenterait votre intelligence. La théorie s'est avérée fausse. Écouter de la musique orchestrale de Paul Mauriac vous rend plus intelligent. Non, je plaisante. Ce n'est pas l'écoute de la musique qui est important. Ce n'est pas l'écoute de la musique qui est important. C'est en participant activement à la musique que nous débloquons les avantages les plus profonds. Tout comme vous ne pouvez pas regarder du sport et devenir en forme physiquement, ah bon, j'aurais voulu avoir cela. Parce que je vois le football et je voudrais être vraiment en forme. Mais ce n'est pas simplement en regardant le sport que nous pouvons être en forme physiquement, non. Aussi, nous ne pouvons pas écouter la musique et devenir musicien extraordinaire. Il faut une participation active. En chantant, en jouant un instrument de musique ou en participant à la musique vocale ou instrumentale du groupe. Les neuroscientifiques s'entendent pour dire que l'information mise en musique est un outil d'enseignement puissant. Nous enseignons l'alphabet, par exemple, à nos enfants. A, B, C, D, nous enseignons nous-mêmes les psaumes de Bible avec des cantiques de l'Église. Est-ce que, par exemple, un bon substitut, c'est de fredonner ou bourdonner? Est-ce que c'est un bon substitut, fredonner ou bourdonner? Quand nous fredonnons, est-ce que notre personne peut comprendre ce que nous pensons, ce que nous disons? Je crois que non. Je crois que non. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous de toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Il faut dire les mots pour instruire quelqu'un d'autre. On ne peut pas fredonner une chanson et être instruit. Exhortez-vous les uns les autres de toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs et avec votre cœur. C'est le sens vraiment. Chantant à Dieu de tout votre cœur en vertu de la grâce. Quatrième sous-point. La musique nous aide à nous souvenir. Une vidéo récente en ligne montrait une femme âgée, une ancienne danseuse de ballet, souffrant de la maladie d'Alzheimer. Elle ne se souvenait pas de qui elle était, ni de personne d'autre. Pourtant, lorsque la musique du lac des cygnes a été jouée, elle a commencé à bouger ses mains et son corps en souvenir de son temps de danse. Elle se souvient. C'est pourquoi lorsque Rhonda et moi sommes allés rendre visite à une vieille dame dans l'église avant sa mort, Rhonda a joué des hymnes et de la musique de l'enfance de cette dame. Elle se souvenait des chansons. Elle nous chantait certaines de ses chansons, même quand elle ne se souvenait pas de nos noms. La musique aide à stocker et à rappeler des souvenirs. Très vite, j'ai les deux autres versets, très vite. Actes chapitre 16, Actes 16. Et en Actes 16, verset 25, c'est l'histoire de Paul et Silas. Ils étaient dans la prison de Philippe. Et Actes 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et je dis simplement, est-ce que Dieu aurait agi s'il ne chantait pas? Je ne sais pas. Mais je sais simplement qu'ils étaient en train de chanter à Dieu et Dieu a entendu et Dieu a agi. Aussi maintenant, deux chroniques, chapitre 20. Deux chroniques, chapitre 20. Ici, c'est l'histoire de le roi Josaphat et il y avait une invasion des trois nations, Moab, Ammon et peut-être des autres. Ils marchaient contre Juda. Et ils ont fait des prières à Dieu, ils ont jeûné, ils ont cherché Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jael, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Assa. Ah voilà, c'était un des chanteurs, c'était un des musiciens. Et il a dit que ne craignez point, ne vous effrayez point devant ces multitudes nombreuses, car ce ne sera pas vous qui combattre, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz. Et puis, ils ont donné les instructions à ce qu'il faut faire. Et je pense, pour moi, c'était un peu comique. Le roi Joseph a dit, « OK, vous, musiciens, vous aurez su cette instruction de Dieu. Alors, vous allez devant l'armée. Vous allez premièrement. » Et ils ont mis les musiciens en avant de l'armée. Et ils marchaient vers le sud. Oui. Et puis, verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présente et dit, écoutez-moi, Judas, les habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomme des chantres qui, revêtus des ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et Moab, et vous pouvez lire le reste de l'histoire. Mais je vois encore une fois, au moment où ils ont commencé à chanter, Dieu a agi. Et la délivrance de Dieu est venu. Alors, laisse-moi faire un résumé. Nous avons vu que la volonté de Dieu est qu'il veut être approché avec le chant. Nous avons vu que le trône de Dieu est entouré des chants et des louanges. Si nous connaissons la volonté de Dieu et nous sommes capables de le faire, mais nous ne le faisons pas, est-ce que c'est un péché d'omission? Nous commençons les services par le chant et non par la prière ou d'une autre manière parce que Dieu dit de faire l'approche en chantant. Psaume 100 et d'autres sont clairs sur ce point. Les avantages du chant de congrégation comprennent une plus grande unité lorsque nous entrons en présence de Dieu. La musique nous aide à apprendre la parole de Dieu. La musique nous aide à nous souvenir de la parole de Dieu. Quant à moi et ma maison, nous louerons le Seigneur tant que nous vivrons. Nous espérons qu'après avoir vu les preuves ci-dessus, vous continuerez également à chanter des louanges à Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre force, avec joie et compréhension tout profond. Merci et bon sabbat à tous.